Vous êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale, 1h à Paris, minuit, temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
En Serbie, les manifestants ne se contentent pas de la démission du Premier ministre mardi. Une nouvelle mobilisation était organisée ce samedi dans la deuxième ville du pays, Novi Sad, pour dénoncer un système politique serbe considéré comme corrompu. Le récit de notre correspondant dans une poignée de secondes. Trois nouveaux otages israéliens relâchés par le Hamas ce samedi en échange de 182 détenus palestiniens. En parallèle, le point de passage de Rafah à la frontière entre Gaza et l'Égypte a rouvert pour évacuer des malades gazaouis. Ukraine et Russie se renvoient la balle. Les deux pays s'accusent mutuellement d'une frappe qui a fait 4 morts ce samedi dans la région russe de Koursk. Et puis on le sait, adepte des formules choc, Donald Trump accuse le gouvernement mexicain d'être allié au cartel. Façon pour le président américain de dénoncer un manque de coopération du Mexique dans la lutte anti-drogue et donc de justifier de nouveaux droits de douane. Un cortège de 80 km de long pour dénoncer la corruption en Serbie. Des étudiants sont partis de la capitale Belgrade pour se rendre à Novi Sad ce samedi pour une immense mobilisation. La deuxième ville du pays a vu défiler des dizaines de milliers de manifestants. C'est ici que début novembre, l'auvent de la gare, pourtant neuf, s'était effondré, provoquant la mort de 15 personnes. Cela avait déclenché une grande vague de contestation contre le gouvernement qui se poursuit donc. Notre correspondant Laurent Rouy était dans le cortège ce samedi et il confirme que désormais le mouvement s'étend bien au-delà des étudiants.
C'est vraiment toutes les classes sociales de la Serbie, les retraités, les agriculteurs, les avocats, les médecins, les professeurs, les simples citoyens qui sont là dans la rue aujourd'hui pour protester dans une ambiance bon enfant. Nous sommes vraiment face à un mouvement non-violent total. Il n'y a en effet aucun incident, à part les quelques incidents qui avaient été déclenchés les semaines passées par des provocateurs du parti au pouvoir, le SNS, et qui avaient été immédiatement mentionné et qui avait occasionné des arrestations. Donc c'est la deuxième manifestation de 24 heures en Serbie en un peu plus d'une semaine. La mobilisation est effectivement très forte. Le Premier ministre a déjà démissionné. Pour l'instant, le président refuse de former un gouvernement technique, ce qui est la demande des manifestants. Nous sommes toujours dans une situation de bras de fer, même s'il semblerait que la population soit en passe de l'emporter.
Laurent Rouy, correspondant d'RFI en Serbie. Une nouvelle mise en scène au milieu des ruines de Gaza. Comme lors des précédentes libérations, les trois otages relâchés ce samedi étaient accompagnés par des combattants armés et cagoulés du Hamas qui leur ont demandé de saluer la foule. Le franco-israélien Ofer Calderon, l'américano-israélien, Kiss Ziegel et l'israélien Yarden Bibas ont été remis aux autorités israéliennes. En échange, 182 Palestiniens et un Égyptien ont été relâchés par Israël. Cet échange de prisonniers a été suivi par l'évacuation de 50 Palestiniens malades qui ont été évacués donc de Gaza vers l'Égypte via le point de passage de Rafah. C'est la première fois qu'il était rouvert depuis mai dernier lorsqu'il était passé sous contrôle israélien. Un piège de béton refermé sur une centaine de personnes dans la région russe de Koursk. 4 d'entre elles ont été tuées. Moscou attaque ses propres civils, dénonce le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. L'armée russe, au contraire, accuse les forces ukrainiennes. Cette guerre, elle s'apprête à entrer dans sa 4e année ce mois-ci. Et même à cette date, toutes les entreprises occidentales ne se sont pas encore retirées de Russie. Nathanaël Vitran, cela s'explique en partie par la difficulté de vendre ses actifs.
Goldman Sachs peut pousser un soupir de soulagement. La banque américaine a reçu le feu vert ce vendredi de Vladimir Poutine pour la vente de tous ses actifs en Russie à un fonds d'investissement arménien. Les responsables de la banque avaient pourtant annoncé leur intention de quitter le pays dès le mois de mars 2022, quelques jours seulement après l'entrée des troupes russes sur le sol ukrainien. Mais Goldman Sachs, comme de nombreuses entreprises occidentales, s'est retrouvée prise entre le marteau et l'enclume, entre les sanctions prises par les alliés de Kiev à l'encontre de Moscou et les contre-sanctions décidé par le Kremlin pour punir les entreprises qui chercheraient à partir en leur imposant une taxe de sortie exorbitante. Toute transaction supérieure à 50 milliards de roubles, soit 480 millions d'euros environ, doit de toute façon être approuvée par Vladimir Poutine en personne. Pour les entreprises qui partent, cela revient à accepter de vendre à perte pour moitié environ de la valeur réelle de leurs actifs, à condition encore de trouver un acheteur. Plus tôt cette semaine, la banque suisse ING avait elle aussi annoncé son départ de Russie, estimant à 700 millions d'euros l'impact négatif de cette transaction sur ses résultats.
Nathanaël Vitran, Donald Trump ne mâche pas ses mots pour justifier la mise en place de droits de douane. Selon le président américain, ces taxes de 25% sur les produits mexicains seront appliquées jusqu'à ce que Mexico coopère avec Washington dans la lutte contre la drogue. Les cartels mexicains ont une alliance avec le gouvernement, lance même le Républicain. Les produits canadiens vont eux aussi être taxés à hauteur de 25%, à l'exception des hydrocarbures moins touchés. Et ceux chinois se voient barrés d'une hausse des droits de douane de 10% supplémentaires. Après le triomphe trumpiste aux États-Unis, les démocrates, eux, espèrent un nouveau souffle. Et pour cela, la Convention nationale démocrate a élu ce samedi un nouveau président du parti. Il s'agit de Ken Martin. Inconnu du grand public, ce militant de 51 ans dirigeait jusqu'à présent le parti dans l'état du Minnesota. Et l'enjeu, eh bien, il est de taille pour lui désormais. Il va devoir dicter les orientations politiques de sa formation. Pour son premier discours dans son nouveau costume, Ken Martin a insisté notamment sur la nécessité de renouer le lien avec les classes populaires. Au-delà des mots, les attentes des électeurs démocrates sont très hautes après la lourde défaite de Kamala Harris à la présidentielle. Illustration avec ce reportage d'Edouard Maille à Atlanta.
Là où ne promène ses deux chiens, la démocrate espère un changement avec la nouvelle direction de son parti.
C'est presque comme si on ne se prononçait sur rien, car on veut défendre tout le monde, comme les groupes LGBTQ, que je soutiens évidemment. Je soutiens les personnes trans, comme tous les démocrates. Mais on peut aider tout le monde sans seulement parler des petits groupes. On doit aborder les sujets qui touchent tout le monde. Ce qu'on va faire pour l'économie, et les démocrates ont fait un très mauvais travail là-dessus.
Aya n'est pas de cet avis. Pour lui, le parti n'a pas assez défendu les minorités et plus généralement les intérêts de tous les Américains.
Ils ne se sont pas attaqués aux problèmes d'insécurité économique, d'instabilité, d'injustice. Ils n'ont pas fait en sorte que chacun puisse se syndiquer sans avoir peur de représailles. Ils n'ont pas fait en sorte d'élargir l'accès à la santé.
Jason aimerait un parti plus agressif pour s'opposer à Donald Trump avec un changement dans la direction.
Sûrement arrêter de prendre des personnes qui viennent de l'establishment. Ils l'ont fait pendant longtemps et continuent de perdre avec cette stratégie.
Jason ajoute que les démocrates doivent réaliser que leur électorat n'est pas de centre-droit, mais plus à gauche. Edouard Maille, Atlanta, RFI.
En France, le Premier ministre fait un pari pour adopter le budget. François Bayrou a annoncé ce samedi qu'il allait déclencher l'article 49.3 de la Constitution. Il va donc jouer sa survie en engageant la responsabilité de son gouvernement. Les oppositions pourraient censurer cette équipe en place depuis moins de 2 mois et ainsi la renverser. François Bayrou espère bien sûr éviter ce scénario et adopter le budget d'ici 10 jours. RFI, 5h38 à New Delhi, l'Inde qui est le nouveau royaume des tigres. Selon une étude parue dans la revue Science fin janvier, le pays a atteint ses objectifs de conservation de l'espèce. Sur 4 tigres répertoriés sur la planète, 3 désormais vivent en Inde. Pourtant, c'était loin d'être un combat gagné contre le braconnage, la perte de l'habitat des tigres et les conflits humains. Mais entre 2006 et 2018, ces félins ont étendu leur territoire de 30% dans le pays. Igor Strauss.
Autrefois répandus dans toute l'Asie, les tigres ont été éliminés de plus de 90% de leur aire de répartition historique. Le succès du plan de conservation indien est donc une bouffée d'oxygène pour les tigres et pour la santé des écosystèmes. Ils sont désormais 3600 en Inde, répartis sur 138 000 km2, et près de la moitié de ce territoire est également habité par des humains. Or, cette cohabitation homme-animal explique la réussite du programme, selon les auteurs de l'étude. L'approche indienne a consisté à préserver certaines terre pour les tigres, tout en les laissant cohabiter avec les humains sur d'autres. Mais cette cohabitation entre les populations et les tigres a généralement lieu dans les zones prospères, précise le rapport. La colonisation des tigres est bien plus faible dans les régions pauvres où les communautés vivent de viande de brousse. Les auteurs de l'étude précisent également que le retour des félins est essentiel pour la protection de la biodiversité, que sa présence témoigne du bon état de tout un écosystème et qu'elle favorise en bout de chaîne la séquestration du carbone qui est bénéfique pour le climat mondial.
Igor Strauss. Et puis en football, en première ligue anglaise, Liverpool fait un pas de plus vers le titre grâce à un doublé de l'Égyptien Mohamed Salah. Les Reds se sont imposés 2-0 lors de cette 24e journée sur la pelouse de Bournemouth, un club pourtant en forme ces dernières semaines. Et puis grâce à son carton, 7-0 contre Brighton, Nottingham Forest s'accroche à sa 3e place. C'est la fin de ce journal sur Radio France Internationale. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques secondes, 1h10 à Paris, minuit 10 en temps universel. Voilà.